Chapitre 10. Niché dans le feuillage d'un grand saule, au milieu de la pente douce qui conduisait au cimetière, un merle passait sa nuit à répéter une série de cris censés l'aider à défendre son territoire contre d'éventuels envahisseurs. En général, les trilles de ces oiseaux, même s'ils étaient toujours menaçants, sonnaient agréablement aux oreilles d'Anna. Dans la pénombre et en de telles circonstances, ce récital lui tapait sur les nerfs. Dans le lointain, un autre merle se livrait au même manège agressif. Si les oiseaux ne parvenaient pas à vivre en paix, comment espérer que les hommes en soient un jour capables? Sa lanterne toujours levée, Jensen tendit son bras libre.
« C'est tout droit. Tom a dit que nous le trouverions ici. »
En nage, après une assez longue marche, Anna sonda les ténèbres. Que pouvait donc manigancer Nathan? Depuis qu'elle le connaissait, il n'avait rien fait de si bizarre. Pourtant, en matière de fantaisie, il n'avait pas son égal. Mais à son âge canonique, on l'aurait plutôt cru disposé à éviter de séjourner dans un cimetière avant d'y être contraint. La dame abbesse à la retraite pressa le pas pour ne pas être distancée par Jensen. Bon sang, elle aurait juré qu'elle marchait depuis des heures et des heures. Pour ne rien arranger, elle avait faim et se maudissait de ne pas avoir pensé à emporter du fromage. « Tu es sûre que Tom sera encore là ?»«
Certaine. Nathan lui a demandé de monter la garde. »
« Pour repousser les autres détrousseurs de cadavres ?»«
Peut-être, »
répondit Jensen sans même esquisser un sourire. Anna n'était pas très douée pour l'humour. Elle pouvait flanquer la trouille à n'importe qui, mais en matière de plaisanterie, ce n'était pas vraiment ça. De plus, un cimetière, en pleine nuit, ne semblait pas l'endroit idéal pour éclater de rire. En revanche, quant à avoir la trouille...
« Nathan veut peut-être simplement de la compagnie. »
avança Anna.
« Voilà qui m'étonnerait, »
répondit Jensen. Elle repéra la partie à demi écroulée de la clôture du cimetière et l'enjamba.
« Il m'a envoyé vous chercher, et il a chargé Tom de monter la garde. C'est sûrement pour qu'il repère des intrus que lui ne serait pas capable de détecter. »
Nathan adorait se sentir le chef. Pour un râle détenteur du don, c'était la moindre des choses. Selon Anna, il pouvait avoir fait tout ça afin de voir Jensen, Tom et elle marcher à la baguette, et avec son goût du drame, un cimetière semblait un décor particulièrement bien choisi. Pour être franche, Anna aurait préféré qu'il s'agisse d'une nouvelle extravagance du prophète. Hélas, elle avait le sentiment que c'était bien plus grave que ça. Depuis qu'elle le connaissait, Nathan s'était parfois montré dissimulateur et un rien comploteur. À l'occasion, il avait été dangereux, mais jamais avec l'intention de faire le mal. Pendant sa longue captivité, il avait constamment tenté de pousser les sœurs à bout. Cela dit, il ne s'était jamais montré méchant ou pervers avec les gens normaux. Il abominait la tyrannie et considérait la vie avec un enthousiasme presque enfantin. Si exaspérant qu'il pût être à l'occasion, cet homme avait un cœur pur. Presque depuis le début et malgré les circonstances, il était le confident d'Anna et son allié dans le combat contre le gardien qui voulait envahir le monde des vivants et contre tous les êtres malfaisants qui s'en prenaient à des innocents. Dans le conflit en cours, il avait joué un rôle capital, car c'était lui, avec 5 siècles d'avance, qui avait annoncé à Anna la future naissance du sorcier. En marchant, la vieille dame ne put s'empêcher de pester contre le froid, contre le cadre de cette promenade nocturne et contre les longues jambes de Jensen. Soudain, elle comprit pourquoi Nathan avait chargé Tom de repérer des intrus que lui n'aurait pas pu détecter. Une allusion au trou dans le monde. Comme la sœur de Richard, tous les Bandakar étaient totalement privés de magie. Ils ne portaient même pas en eux la minuscule étincelle de don que le Créateur, partout ailleurs dans le monde, accordait à tous ses enfants. Ce lien consubstantiel rendait les gens insensibles au contact du pouvoir et à son influence. Pour les trous dans le monde, le pouvoir n'existait tout simplement pas. L'absence totale de dons chez ces personnes les immunisait naturellement contre la magie. Mais ce n'était pas tout. Puisqu'il n'y avait aucune interaction entre le pouvoir et elles, il était impossible de les voir avec le don. En d'autres termes, pour les sorciers et les magiciennes, les Bandakar étaient invisibles, magiquement parlant, bien entendu. En matière d'hérédité, les choses se révélaient cruellement simples. Si un des parents était un trou dans le monde,
sa particularité se transmettait à toute la descendance. Des lustres plus tôt, ces gens avaient été bannis. Une solution expéditive et cruelle, certes, mais qui avait évité la disparition du don. Sans cette démarche radicale, la magie n'aurait plus été qu'un très vieux fantasme ou un conte à dormir debout. Les prophéties faisant partie intégrante du don, elles non plus ne voyaient pas les trous dans le monde. Aucune prédiction ne les mentionnait, ni n'évoquait l'avenir de l'humanité et de la magie après que Richard eut redécouvert les bandes Dakar et mis un terme à leur isolement. Depuis ce moment précis, tout ce qui suivrait était inconnu et inédit.
Anna se doutait que Richard s'en réjouissait. Par nature, il n'était pas porté à croire aux prédictions. Malgré tout ce que les textes majeurs disaient de positif sur lui, il s'en méfiait et clamait à qui voulait l'entendre qu'il préférait croire au libre arbitre. La notion même de prédestination le révulsait et il avait l'honnêteté de ne pas en faire mystère. L'équilibre était nécessaire dans tous les domaines de la vie, y compris et surtout la magie. En un sens, l'entêtement de Richard à forger son destin tout seul était une compensation par rapport à l'omnipotence des prophéties. Le sorcier se tenait au centre d'un vortex où toutes les forces de la nature et de l'humanité s'opposaient les unes aux autres. Dès qu'il s'agissait de lui, toute magie divinatoire tentait en fait de prédire l'imprévisible. Pourtant, il fallait bien continuer d'essayer. Le fameux « libre arbitre » de Richard le transformait en véritable fléau vivant des prophéties. À force de s'affirmer comme un électron libre, il semait le désordre partout et spécialement dans les textes qui le concernaient. Ce garçon était le représentant du chaos invité à un banquet de l'ordre. Antithèse naturelle de toutes les organisations, qu'elles fussent animées de bonnes ou de mauvaises intentions, il était au moins aussi capricieux que la foudre. Pourtant, il se laissait guider par la vérité et la raison. Ne comptant pas sur la chance, il ne cédait jamais à ses fantaisies et prenait garde à ne pas basculer de la puissance à l'arbitraire. Comment pouvait-on semer ainsi le chaos dans les prédictions et être une personne si rationnelle? Pour Anna, c'était une énigme, et ça promettait de le rester longtemps. L'ancienne dame Abbesse s'inquiétait beaucoup au sujet du sorcier. En général, un être porteur de telles contradictions finissait par sombrer dans l'illusion. Et l'Empire d'Aran, en ce moment, avait besoin que la tête de son chef soit bien posée sur ses épaules. Tous ces raisonnements étaient de la haute théorie. Le problème urgent consistait à persuader Richard de jouer dans l'histoire le rôle que les prophéties lui allouaient. S'il n'accomplissait pas son destin jusqu'au bout, tout serait perdu. Angoissant comme l'ombre de la mort, le message de Verna restait sans cesse présent à l'esprit d'Anna. Ayant repéré la lueur de la lanterne, Tom avait quitté son poste pour aller à la rencontre des deux femmes.
« Vous voilà enfin !» dit-il à Anna. « Nathan sera content de vous voir arriver. Venez, je vais vous montrer le chemin. »
D'après ce qu'elle vit de lui à la chiche lueur de la lanterne, Tom semblait inquiet. Quoi qu'il en soit, il guida les deux femmes jusqu'à une section du cimetière qui devait être assez récente. Jusque-là, la dame Abbesse avait surtout vu de hautes herbes qui recouvraient des pierres tombales patinées par le passage du temps, voire pratiquement retombées en poussière. À ces endroits, on se serait cru dans un banal champ envahi de végétation. Ici, en revanche, on distinguait parfaitement les monticules de terre sous lesquels reposaient les défunts.
« Tom, » demanda Jensen, « tu sais comment s'appellent ces gros insectes qui font un boucan d'enfer ?»«
Désolé, mais je ne peux pas te répondre. » Je n'en avais jamais vu, et voilà qu'il y en a partout, comme s'ils sortaient de terre.
« Ils sortent de terre, » confirma Anna avec un petit sourire.
« Et ce sont des cigales. »« Des quoi ?»
lança Jensen.
« Des cigales. Vous êtes trop jeune pour vous souvenir de leur dernière éclosion. Le cycle de vie de cette espèce aux yeux rouges est de 17 années. »«
Vous voulez dire que ces insectes se montrent seulement tous les 17 ans ?»
« Exactement. Quand les femelles se seront unies à leurs bruyants compagnons, elles pondront des œufs dans les arbres. Une fois écloses, les larves tomberont des branches et s'enfouiront dans les arbres. Elles n'en ressortiront pas avant 17 nouvelles années pour mener une existence adulte des plus brèves. »
Jensen et Tom émirent quelques commentaires émerveillés tout en continuant à avancer. La sœur de Richard marchant un peu devant elle, Anna ne distingua pratiquement plus rien, à part la silhouette massive de grands arbres aux branches agitées irrégulièrement par une brise capricieuse.
Alors que le chant des cigales montait de toutes parts, Anna utilisa son han pour détecter d'éventuelles présences. Mais il n'y avait que Tom, et un peu plus loin, une autre personne qui devait être Nathan. Jensen étant un pilier de la création, elle n'existait pas pour le pouvoir de la vieille dame. Comme son frère, Jensen avait été engendré par Darkenral. L'apparition de gens étrangers à la magie comme elle était un effet secondaire, inattendu et indésirable du lien dont tous les seigneurs Ral étaient les dépositaires. En un très lointain passé, les piliers de la création avaient été exilés dans l'Empire Bandakar. Ensuite, tous les rejetons privés du don des seigneurs Ral avaient été mis à mort. Rompant avec une vieille et ignoble tradition, Richard s'était réjoui d'avoir une sœur. Avec lui, Jensen ne risquait plus de finir sous les coups d'un assassin et il ne serait plus jamais question de bannissement. Anna côtoyait des trous dans le monde depuis quelque temps. Pourtant, elle ne s'y était toujours pas habituée. Même quand l'un d'eux se tenait devant elle, son han lui soufflait qu'il n'y avait personne. Cette forme de cécité était terrorisante, comme pouvait l'être la perte d'un sens pour un individu normal. Jensen devait allonger le pas pour soutenir le rythme de Tom. Avec ses courtes jambes, la pauvre Anna était obligée de courir. Derrière un petit tertre, la forme massive d'un monument se découpa soudain. À la lumière de la lanterne, Anna vit qu'il s'agissait d'un socle un peu plus haut qu'elle, mais pas autant que Jensen. La pierre brute avait souffert du passage du temps et les sculptures qui la décoraient étaient impossibles à identifier. Si quelqu'un avait un jour poli cette structure, il n'en restait plus la moindre preuve. En revanche, les diverses strates de décoloration, combinées à une kyrielle de petits amas de lichen, laissaient penser que l'érection de cet autel remontait à des siècles. Une vasque sculptée remplie de fruits en pierre et d'où débordaient des grappes de raisin, le fruit préféré de Nathan, trônait sur ce socle jadis majestueux. Quand elle eut fait le tour du monument, Anna eut la surprise de constater qu'il ne reposait plus sur ce qui aurait dû être sa base. Une pâle lumière sourdait du sol, là où béait un trou. Le socle avait été poussé sur le côté pour dégager l'entrée d'une crypte. Tom désigna les marches qui s'enfonçaient dans la terre.
« Il est là-dedans, »
dit-il simplement. Jensen se pencha pour jeter un coup d'œil.
« Sous terre? Dans cette crypte ?»«
J'en ai bien peur, oui. »«
Et c'est quoi, cette crypte ?»
demanda Anna.
« Navré, mais je n'en ai pas la moindre idée. J'ignorais son existence jusqu'à ce que Nathan me fasse appeler il y a quelques heures. » Il a dit que vous devriez le rejoindre dès votre arrivée. Il a répété 100 fois que personne d'autre ne verrait cette crypte. J'étais chargé de monter la garde et d'interdire l'accès du cimetière à tous les importuns. Franchement, je doute qu'il y en ait beaucoup en pleine nuit, surtout quand on connaît l'extrême prudence des Bandakar.
Une qualité dont Nathan ferait bien de s'inspirer,
lâcha Anna. Elle tapota l'avant-bras musclé de Tom.
Merci, mon garçon. « Reste ici et continue à monter la garde. Moi, je vais descendre voir de quoi il retourne. »«
Nous allons descendre toutes les deux, »
corrigea Jensen.